Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est l'heure est grave et on se retrouve cette semaine pour parler Uppercut, Destin Brisé et Glaçons dans le Slip avec le Mohamed Ali des Ondes, le Brahim Asloum du micro, Raphaël. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Gaspard, bonsoir à tous.
Et avec nous pour la première fois ce soir, celui qui fait trembler les salles de sport, celui qui vous met la misère au triple développé couché, celui qui nage avec les cétacés, Thomas. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Gaspard.
On se retrouve cette semaine pour parler cinéma et plus particulièrement d'un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma américain, réalisé par l'un des plus grands cinéastes américains, Raging Bull de Martin Scorsese, réalisé en 1980. T'as pas regardé le film?
Mais non, on avait regardé Herbert, du coup, t'es con. Ouais,
je veux dire, Herbert avec De Niro, on est d'accord. Martin Scorsese est né en 1942 à New York. Il a grandi à l'Italie au milieu des petits voyous et des grands gangsters. Après s'être fait renvoyer du séminaire, il décide de consacrer sa vie au cinéma et intègre l'université de New York. Il réalise alors plusieurs courts-métrages très remarqués dans les années 60, Raph, tu peux en parler, dont le célèbre Big Shave, et signe ses premiers longs-métrages à la même époque. Il s'est mis alors à débuter une nouvelle vie, une nouvelle vague pour le cinéma américain, pour le jeune Martin, qui auprès de cinéastes comme Coppola, Spielberg, De Palma ou George Lucas, initie sans le vouloir ce qu'on appelle le nouvel Hollywood, avec toute une série de films absolument cultes, Mean Street, Taxi Driver, New York, New York, et puis pour les autres, Le Parrain, Les Dents de la Mer, La Guerre des Étoiles, et compagnie, et compagnie.
Toi, t'as initié une nouvelle vague, Thomas, parce que on t'invite comme ça, mais c'est quoi?
Mais non, mais moi j'ai pas vu le film, donc si tu veux, je suis un peu perdu là.
Je comprends pas, moi je pensais qu'on parlait de Dauphin.
Mais j'ai fait ce que j'ai pu. Bah oui, on reparlera de ce que je fais dans la vie, mais c'est pas.
On peut en parler tout de suite, tu sais. Parce qu'en fait, il faut quand même expliquer la petite spécificité, c'est que bon, alors il grave, on a la chance d'avoir un ami qui a un métier pas comme les autres. Qu'est-ce que tu fais, Thomas, dans la vie?
Moi je suis éleveur de dauphins. Enfin, dresseur, éleveur.
Où ça?
Ça dépend, au parc Astérix.
C'est ce qui est beau parce que le prochain épisode c'est sur Astérix.
Ouais.
Donc en plus, c'est
vrai. Je suis réinvité ou pas?
Si tu veux, tu es le bienvenu.
Bah, si tu veux nous parler des conditions syndicales au parc Astérix, tu es le bienvenu, ça y a pas de problème. Tu sais qu'on a un podcast un peu contestataire, donc.
Couvert de prix à la fin des années 70, il sombre malheureusement dans la drogue et d'autres substances avant de renaître avec le projet que lui apporte son meilleur poteau Robert De Niro. Et ça sera Raging Bull. Il s'ensuit alors une carrière bien trop riche pour être résumée en deux minutes. On va juste dire 25 longs métrages, dont After Hours, Les Affranchis, Casino, Aviator, Les Infiltrés, Le Loup de Wall Street. Il n'y a pas de dauphin, je suis désolé. Il y a beaucoup d'animaux chez Scorsese, mais il n'y a jamais de dauphin.
Il n'y avait rien sur le judo.
Non,
mais malheureusement. Moi, j'ai envoyé ma nouvelle pour qu'il l'adapte.
Un film de boxe, on n'est pas loin quand même.
Ouais, c'est pas pareil. Hein. Franchement, judo, boxe, c'est pas le même.
Une palme d'or, un lion d'or, un Oscar, bref, simplement l'un des plus grands cinéastes du monde, obsédé par les destins, confronté aux notions de bien, de mal, de rise and fall, de fatalité, de famille, d'amis, d'église, de sang, mais toujours pas de dauphin, je suis désolé.
Non, mais il y avait eu un débat, je me souviens un peu à l'époque, tu te souviens, le tigre dans Casino. Je crois qu'il y avait eu un débat à un moment de mettre un dauphin.
Ouais.
Enfin, moi, j'avais un peu milité à l'époque, ouais. Mais
il y avait pas d'eau, en fait, dans la cage, donc c'était.
Exactement. Donc, on a fini par un tigre, en fait.
Il y a des scènes coupées où, en fait, on voit juste un dauphin qui. Il floppe sur le sol, c'est très gênant.
Oh, là, c'est beaucoup moins classe.
Péta, tout ça qui lui était tombé dessus, il disait mais c'est pour le cinéma.
Enfin, mais je crois que
c'est pour le cinéma.
Je crois que même dans Carlito's Way de Palma, à un moment, le mafieux il se fait offrir un tigre en cadeau. Bah, ça devait aussi être un dauphin.
Oui.
Mais alors le traîner en laisse dans New York, c'était moins. C'était pas facile quoi.
Mais il y avait eu des contestations.
Et De Palma avait dit à l'époque c'est pour le cinéma. Enfin, il avait dit it's for the cinema.
For the cinema.
Raging Bull est donc un projet initié dès les années 70 par Robert De Niro. Scorsese accepte de faire ce film après une période très sombre de sa vie. Je suis désolé, je te prends la main, Thomas, à ce moment-là.
J'adore.
Parce que c'est un film qui lui permet de dire merci à son ami, mais c'est surtout une histoire d'échec, d'autodestruction, de destin brisé qui a une tragique résonance avec sa propre vie. Ça va devenir un des plus grands films, plus grand succès public et critique de toute l'histoire. Et ça va être aussi le premier Oscar du meilleur acteur pour Robert De Niro, qui va prendre quand même plus de 30 kilos. Et ma question ce soir, c'est est-ce qu'on a besoin de prendre 30 kilos pour faire un bon film ?
Thomas, une idée?
Ouais, c'est une bonne question. Moi, j'ai pris 30 kilos, j'ai pas fait de bon film.
T'as juste eu les kilos.
J'ai juste pris les kilos.
T'es allé devant la Warner, tu leur as dit quand même que t'avais pris 30 kilos.
Mais ça, c'est parce qu'en fait, Thomas vous l'a pas dit, mais il mange les poissons qu'il donne aux dauphins.
Deux
pour Flipper, un pour moi. Deux pour Flipper, un pour moi.
Un pour papa, un pour maman.
Non, mais en vrai, il y avait une interview de Niro qui était intéressante là-dessus où
il disait c'est pour le cinéma, pas il disait
c'est pour le cinéma. Mais il expliquait pourquoi est-ce qu'il avait vraiment voulu prendre les 30 kilos. Alors que tout le monde lui disait qu'on pouvait le faire via du make-up et tout. Et lui te dit non, parce que je voulais vraiment ressentir le personnage et avoir l'impression moi-même, enfin, me sentir gros.
Ouais, être
et...
un gros lard, quoi.
Ouais, exactement.
Parce qu'à la fin, c'est clairement un gros lard, le mec, quoi. Mais du coup, c'est l'histoire un peu d'un rise and fall de boxeur.
Un bon gros fall, là,
un
quand même.
Un bon gros fall. Alors, ce boxeur, c'est Jake LaMotta, donc un boxeur qui a bien existé et puis qui s'est battu avec notre champion national à nous.
Marcel
Cerdan!
Ah oui, c'est vrai, ça.
Mais ouais, c'est le canton à Edith.
Marcel, il est revenu aux États-Unis pour s'entraîner pour prendre sa revanche face à Jake et c'est en revenant qu'il est mort dans un accident d'avion.
Malheureusement.
Non, mais du coup, un grand film quand même, on peut le dire. C'est la première fois que vous le voyez ou...
Non, c'était pas la première fois. Moi, ça m'a bien plu de le revoir. Après, le truc, on va le dire à certains, en fait, j'aime beaucoup la période boxe. J'aime beaucoup moins la fin parce qu'en fait, et c'est peut-être une marque du fait que c'est réussi. Je trouve ça hyper gênant les moments où il est devenu entertainer et il fait des sketchs qui sont abominables. Ils sont clairement vraiment à chier.
Non, mais lui, est abominable.
En fait, et c'est peut-être là que c'est bien fait. C'est parce que t'es hyper malaisé, quoi, face à ce mec-là. Donc non, concrètement, c'est quand même un très bon film. Puis, De Niro.
De Niro est impressionnant. Il y a
juste le truc qu'il y a deux ou trois fois, il met des patates. On voit que les mecs les prennent pas.
C'est quand même ultra violent pour un film de boxe, même Rocky, tu vois, qui était censé être plus réaliste. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un mélange entre genre, tu sais, le film est en noir et blanc, ça te fait pas croire que ça va être un truc très classique, et c'est le montage hyper cut, tu vois qu'il y a plein de sang sur le ring, il te filme en ralenti l'arcade sourcilière qui explose, le sang qui arrive sur le public.
En termes d'image, je pense qu'on peut difficilement faire mieux, quoi. Ah, c'est juste sublime. Magnifique, c'est sublime, quoi.
Non, en vrai, moi, j'étais bluffé par la violence du truc. Je trouve le noir et blanc, je sais même pas comment dire, mais c'est vraiment des images, c'est ce que tu disais, avec le cut qui est hyper rapide. Tout est comme ça, il y a un côté hyper froid, hyper sec de tout ce qui se passe. Et t'as plein de moments où t'as vraiment l'impression de te prendre les coups toi-même, quoi. C'est bluffant. Et des moments où c'est vraiment la caméra qui se fait cogner. La caméra sur le ring est bluffante.
Bah, et toi, Gaspard, qu'est-ce que t'en as pensé rapidement?
Rapidement, je vais pas être très objectif puisque c'est moi qui ai proposé ce film, parce que je pense que à cette question très compliquée qu'on nous pose souvent, quel est ton film préféré? J'aime répondre Raging Bull, qui est, je trouve.
Putain, mais t'as dit que c'était Air Bud! T'es chiant!
Ouais, mais enfin là, on fait une émission, tu sais, et tout, France Culture et tout. Non, mais vraiment, je pense que c'est le plus beau film de tous les temps. Et à chaque fois que je le vois, je finis en pleurs. Spoiler alert, j'ai fini en pleurs à nouveau cette semaine. L'ouverture du film est tellement belle où à chaque fois je me dis c'est pas possible, tu vas pas foirer à nouveau ta vie, et à chaque fois il la foire, et à chaque fois ça me détruit en fait.
À chaque fois il recommence, il la rate.
Ça me ferait trop rire qu'un jour je la regarde, oui, et tu sais, ça se passe super bien et tout. Et je suis en mode ah bah non, j'ai mis Air Bud, je suis con.
Et Marcel Cerdan il meurt pas. Et ouais.
Non, mais voilà un petit résumé qui nous permet peut-être de passer au film si vous le voulez bien.
Avec plaisir.
Et le film s'ouvre en 1964, après un des plus beaux génériques de tous les temps, on peut le dire, dans les loges d'un cabaret où on voit Jake, qui est tout vieux, tout bedonnant, en train de répéter avec un peu de difficulté son spectacle uniquement composé de citations de films, de paroles de chansons, de monologues de Shakespeare.
Avec des vieilles rimes, il est vraiment à chier ce
c'est,
truc.
Ça, voilà, on est censé voir un match de boxe et on découvre un gros lard en train de répéter dans sa loge dégueulasse qui pue apparemment le cigare.
C'est impressionnant, on comprend rien. Ouais. D'ailleurs, qu'il dit. Moi, j'ai regardé vraiment sans sous-titres, j'ai rien pigé de cette partie.
Bah, ça doit être la quatrième ou cinquième fois que je le vois, ce film. Donc, je commence à piger un petit peu les séquences. Mais la première fois que j'ai vu le film, j'étais en mode, qu'est-ce que ça vient branler là? Je pensais que j'allais voir un truc un peu plus punchy. Ouais.
Mais le choc est d'autant plus impressionnant, je trouve, c'est que d'un coup, il y a un raccord de lui, tout gros, en train de s'allumer son cigare, à, bam, 23 ans plus tôt, où il est en 1941 sur le ring. Et il se prend d'un coup une patate en pleine gueule. Et en fait, on le découvre, du coup, Jack LaMotta, boxeur dans les années 40. Il est en train de se battre face à Jimmy Reeves, qui va lui éclater la gueule, quoi. Et ça va être, en tout cas, la première défaite de Jack LaMotta.
Ah, c'est une défaite un petit peu amère, parce qu'en fait, on apprend qu'on est en Ohio et pas à New York, où les règles sont un peu différentes. Et donc, il arrive, Jack LaMotta, à foutre son adversaire par terre. Mais bien qu'il ait mis KO le mec, c'est lui qui va perdre. Ce qui va déclencher une baston générale.
Parce que tout le public est avec lui.
On apprend, en fait, on voit qu'il est très populaire. On voit que c'est un peu l'enfant du peuple.
On a plein d'infos sur lui avec une première scène, puisqu'on découvre aussi qui est son fidèle associé.
Son frère.
Qui s'appelle Joey.
Qui est joué par Joe Pesci.
Joe Pesci, ouais,
qui est extraordinaire, comme d'habitude.
Et qui joue toujours le même rôle un peu, mais c'est ça qui est.
C'est vrai
joue
qu'il
bien,
est
quoi.
Tout le temps vraiment un peu le petit chien de Niro.
Forget about it. What am I gonna do?
Il est hyper tendre là. Celui, il est vraiment en mode genre, viens, je te fais un câlin. Il s'énerve à un moment dans le film parce que c'est Joe Pesci et on est chez Scorsese, donc il va forcément s'énerver.
Ouais. C'est son petit frère, c'est ça?
C'est son petit frère. En taille comme en âge.
Ouais.
Une défaite un peu au goût amer puisque Jacques retourne chez lui et se remet difficilement de ce match. Il s'engueule avec tout le monde, c'est très simple. Il s'engueule avec sa femme pour une cuisson du steak.
En même temps, est-ce que c'est si dur de cuire un putain de steak correctement? Merde!
On est d'accord. Mais moi, je m'engueule d'ailleurs avec vous, souvent, pour la cuisson des steaks.
Non, mais je veux dire, le mec, il rentre, il a eu une journée difficile au travail. C'est quand même un des rares boulots où tu t'en prends plein la gueule, littéralement.
C'est vrai que
pendant des heures, il t'a cassé la gueule.
Il commence à dire à sa femme, ramène mon steak, tu vas trop le cuire. Hein, elle le ramène, et elle lui pose sur la table. Il avait toutes les occasions pour s'énerver, et une fois qu'elle pose le steak, bam, il retourne la table.
Mais non, tu vas pas pouvoir le manger, du coup, ton steak, c'est dommage. Autant qu'il reste dans la poêle à ce moment-là, quoi.
Alors, il est très énervé. Il s'énerve aussi contre son frère qui vient lui rendre visite et qui lui dit, tu sais, bon, voilà, on galère un peu. J'aimerais te présenter Salvi, qui est en fait le voyou du quartier, qui, entre guillemets, peut les aider. Mais ça lui plaît pas du tout à Jake.
Bah, ce qu'il comprend un petit peu, c'est le truc, c'était la boxe à cette époque et la boxe pendant encore assez longtemps. On le voit aussi dans Rocky, hein.
Ouais.
C'est que c'est très lié à la mafia. Donc, en gros, pour avancer un peu mieux dans ta carrière, parce qu'on a l'impression qu'il galère un petit peu, Jake LaMotta, il faudrait qu'il se plie un petit peu au bon vouloir de la mafia.
Il va te coucher sur quelques matchs. Et puis
concrètement,
voilà.
Qu'il se couche, et ça lui plaît pas du tout. Il veut faire les choses my way.
Il s'engueule avec tout le voisinage, en effet, puisqu'il s'engueule aussi avec son voisin qu'on ne voit pas, qui le traite de tous les noms d'animaux possibles.
Ça m'a pas plu. Non, sans déconner, ça m'a pas plu.
Mais après, c'est un truc très fréquent chez Scorsese.
En vrai, je suis sérieux. Hein.
Non, mais je sais que tu as une vraie passion pour les animaux, et c'est pour ça qu'on connaît Thomas, mais c'est un truc qui est cohérent chez Scorsese, puisque tous les personnages ont toujours un rôle d'animal. Là, c'est le bull, il y a eu le loup de Wall Street. Mais je sais que, non, pardon, je veux pas te couper.
Bah ouais, désolé, je fais juste un insert là-dessus. Moi, ça m'a un peu gêné, parce que c'est facile comme ça. Enfin, les humains, ils font de la merde, et puis derrière, c'est les animaux qui prennent.
Qu'est-ce que tu veux dire, quoi,
bah, je sais pas, quand il dit je vais crever ton chien, moi, personnellement, ça m'a un peu mis à l'aise. Mais bon,
t'as
un problème avec les.
Tu sais, j'aime les animaux, enfin, c'est comme ça qu'on s'est.
Mais moi aussi, j'aime les animaux. Oui, mais c'est une attaque personnelle, ça se
peut. Non, parce que toi, m'a dérangé, quoi.
Les gars, on est là. Oui, non, mais toi, les animaux, en même temps, toi, tu dresses des dauphins, je le rappelle, voilà. Ils sont.
Et donc, j'aime pas les animaux parce que je dresse des dauphins.
Non, mais ils sont dans un aquarium, ils sont enfermés. Beaucoup d'aquariums, mais surtout une piscine dans le quartier. Ils profitent un moment, Jake et Joey, d'une belle journée ensoleillée pour aller reluquer des filles et aller regarder la très belle et très jeune, puisqu'elle a à peine 15 ans, Vicky. Vicky, apparemment, elle fait craquer tous les hommes du quartier. Même Joey a essayé de la pécho, mais sans succès.
On peut faire un petit point sur Vicky, peut-être.
C'est une blonde absolument magnifique qui est allongée sur le bord de la piscine.
Le bord de l'aquarium. Elle caresse des dos.
Non, en fait, il y a un truc impressionnant. C'est d'abord, t'as la caméra qui descend de ses cheveux et de son visage jusqu'au bas de ses jambes. Ouais, exactement. Et ensuite, elle met les jambes dans l'eau. Il y a un vrai truc qui est ouf du battement des jambes de Vicky dans l'eau, mais qui est impressionnant.
Ça t'a rappelé les plus beaux spécimens, ça.
Bah, moi, j'adore. Enfin, tu vois, des...
Tu t'es mis à frétiller. ça me rappelle le boulot. Oh, non.
Du coup, il a pris un poisson, il l'a jeté à l'écran. Ah, merde, le réflexe con, putain.
Sur un placement, en plus, après, c'est dégueulasse à la baie. Enfin,
c'est vrai.
Mais du coup, alors, par contre, Vicky, petit point, elle est très, très belle. Par contre, elle a pas 15 ans.
Elle en a 35 comme dans tous les films américains.
Salut, mon petit pépé. Elle a un cancer de la gorge déjà, avec sa voix hyper grave et tout.
Oui, clairement.
C'est très sexy, mais elle a 40 ans, quoi.
Elle a vraiment, enfin, le personnage a 15 ans, et en plus, genre, même Joey le rappelle à son frère en mode genre, bah non, personne n'a rien fait avec elle, elle a 15 ans.
Gros, c'est pas bien.
Mais en tout cas, ça ne l'empêche pas de lui demander de la présenter.
Vicky, c'est mon frère Jake. C'est le futur champion.
Bonjour.
Bonjour, ça va? Chantez, mademoiselle.
Jolie voiture.
Elle vous plaît?
Jolie.
Ouais. Où c'est que vous habitez?
Par là.
Vous voulez faire une virée?
Je veux bien. Laissez-moi deux petites secondes pour me changer, d'accord?
Très bien.
J'en ai pour deux secondes.
Je bouge pas, je suis là.
Oui, oui.
Après ces doux mots signés Robert De Niro, Jake va emmener Vicky à un rendez-vous. Ça m'a fait rire parce qu'il a eu le même premier rendez-vous que toi. Il a emmené sa meuf au mini-golf.
Oui, c'est vrai. J'avais fait ça.
Avec un dauphin, non, c'était bizarre.
Mini-golf du parc Essex.
Le mini-golf du parc Essex. Donc effectivement, après, j'ai pu aller lui montrer les dauphins. Mais
tu pouvais faire des tricks avec les dauphins qui t'aidaient, genre, et regarde, pof, tu mets un angle à 45 degrés, t'as le dauphin qui saute, qui met un petit coup.
Non, mais en revanche, sur la scène, je sais pas ce qui est le plus glauque dans cette scène. C'est que vraiment, c'est de pire en pire. Il commence par la bagnole où ils se disent rien. Qui est absolument affreux.
Non, il lui dit, genre, viens te coller contre moi, et il lui met le bras autour de l'épaule.
Okay, c'est vrai, c'est vrai.
Comment
c'est vrai.
Il passe les vitesses? Des os, hein.
Ouais, mais c'est moi, ça m'a dérangé à ce moment-là, tu vois.
Enfin bon. Et donc, il y a ça, voiture, où ils se parlent quasiment pas. Ensuite, ils vont au mini-golf, qui est absolument affreux. Il se passe rien. C'est-à-dire, ils commencent à jouer. Au bout de 3 secondes, ils perdent la balle. Ouais, et il dit, bon, bah, en fait, on arrête. Et ça n'a aucun sens. Et ensuite, il l'amène.
Chez son père. Chez son propre père. Pour lui dire, regarde, c'est l'appartement que j'ai offert à mes parents. Et il commence à lui montrer des photos de lui. Chez son père, et à plus ou moins, il la force à l'embrasser.
Ouais.
C'est très très gênant ce qui se passe.
Ah, c'est hyper gênant, t'as des vierges partout dans, sur tous les murs.
Mais enfin, ce truc est hyper glauque parce que déjà il l'amène dans l'appartement en mode bah je peux pas l'amener dans mon appartement parce que bah
il y a ma femme.
Oupsie,
t'imagines l'erreur. Ah bah chérie, chérie, je te présente Vicky. Ouais,
elle est partie faire des courses, tu peux t'asseoir. Non, c'est parce que tu crois, elle a 15 ans, je lui donne de l'aide pour ses devoirs.
Alors là,
et après je la nique.
À chaque fois qu'il est avec Vicky, et ça commence à ce moment-là, et il y a d'autres scènes où ça se répète, t'as toujours un jeu de miroir. Je sais pas si t'as...
Si, si, j'ai remarqué.
Mais j'ai aucune idée du pourquoi.
Après, je ne pourrais pas l'expliquer parfaitement, mais le miroir au cinéma, c'est souvent un symbole de dédoublement de personnalité. On voit le séducteur, mais en même temps, on sait le fou qu'il y a derrière, quoi. J'imagine qu'il y a aussi ça. Non, mais la première fois qu'ils se parlent, et dans l'extrait qu'on a écouté, il faut imaginer qu'il y a un grillage entre eux, quand même.
Ouais.
Donc genre le symbole est peut-être un peu lourdeau, mais il existe. On se retrouve en 1943 sur le ring et Jake bat Sugar Ray Robinson en lui infligeant sa première défaite. Ouais. C'est un combat historique.
En fait, ils vont s'affronter Sugar Ray Robinson et Jake LaMotta 6 fois.
Ouais.
Alors, faut savoir qu'un pro en boxe ne fait pas plus de 40-50 matchs dans toute sa carrière. 50, c'est s'il est très très productif et qu'il a une très longue carrière. Parce que tu peux faire un match maximum tous les 3-4 mois, voire 6 mois, tu vois. Donc c'est 6 fois à s'affronter, c'est une grosse part de ta carrière. Et Sugar Ray Robinson qui était le meilleur boxeur
et même LaMotta reconnaissait, je suis tombé sur une interview de lui dans les années 90 où il disait non le plus grand boxeur de tous les temps c'est Sugar Ray Robinson
qui était exceptionnel, et il le bat. C'est la première fois que Sugar Ray Robinson est mis au tapis. Il sera mis une deuxième fois au tapis, et c'est les deux fois dans sa carrière uniquement il est mis au tapis, et la deuxième fois c'est aussi par Jake LaMotta. Donc on est quand même pas en face d'un tocard, quoi.
Mais c'est un peu Ali contre Foreman, c'est vraiment
Willie contre Flipper.
Oui.
Enfin moi je sais qu'au taf c'est un peu un running gag qui revient souvent quand on parle de Raging Bull.
C'est ça. Ce genre de rivalité, c'est assez haine.
Il y a des teams, il y a Team Flipper, Team.
Mais un peu, enfin, tu le vois pas comme ça tout de suite, tu vois, personne n'avoue. Personne dit je suis Team Willy. Mais en vrai, il y en a quand même qui.
Toi, t'as un tatouage quand même.
Bah, moi, ouais.
On dira pas, si tu veux, on le dit pas pour nos auditeurs, mais t'as choisi quand même.
Willy, c'était pas un orc.
Si, mais justement.
Ouais. Il becte pas Flipper. Juste mais... comme ça. Dans la nature.
Parce qu'il a fait une transition, en fait. C'était un ancien dauphin.
D'accord, merde, pardon, je voulais pas.
Mais non, parce que tu as dit qu'il était orc, et ça, c'est vrai.
Je voulais pas l'agenrer, excusez-moi.
Mais
pour
tu l'as pas du tout genré, Willy. On comprend que Jake et Vicky vivent désormais ensemble. Il la chauffe un peu avant un match. Il lui demande de l'embrasser sur ses bobos, comme il dit. C'est très mignon.
C'est ma boubou.
Ma boubou.
Et puis en fait,
boubou.
Elle commence à l'embrasser sur ses bobos, puis un peu ailleurs. Et puis en fait, la pression monte. Et là, Jack va craquer. Qu'est-ce qu'il fait pour décraquer?
Oh, il met de l'eau froide. Il met de l'eau froide dans le caleçon. Ça, c'est rigolo, hein.
Toi, tu fais souvent ça d'ailleurs avec tes dauphins pour les calmer un peu. Parce que quand tu leur caresses le belly, ils sont un peu.
Bah, moi, surtout, je demande surtout à mes dauphins de me faire des petits bisous sur les boubous.
Kiss ma boubou.
Il mute vachement bien le dauphin, ouais, putain.
Ah, tu sais, c'est ma passion pour les animaux. Hein. Mais alors, cette scène de secondes, elle est hyper. Elle est sexuelle, elle est hyper chargée.
T'as une tension qui est monstrueuse.
Une tension de malade mental. Moi, c'est le seul truc que je clairement.
Ce qui est gênant, c'est quand on découvre qu'il y a le frère qui est assis sur le lit à côté de toi.
Tu m'avais dit qu'on allait acheter des glaces, bordel.
Et il y a sa femme qui est là. Mais oui, on se les met dans le caleçon, les glaces.
Qu'est-ce ma bobo.
Son père qui dort dans le lit depuis 3 semaines.
D'aller hey. Ah, il est parti faire des courses. Ah non, il dort, merde, pardon. Non, mais le truc qui est assez incroyable, c'est que.
Sa femme qui leur prépare des steaks dans la chambre d'à côté. Non, elle a intérêt à bien les cuire, sinon son cadeau se pour lui péter la gueule.
C'est que la meuf sort de la salle de bain et on voit les jambes juste de Jake LaMotta. C'est le début de la scène.
Tu veux dire qu'on est en POV?
On est en POV. Non, mais il a les deux jambes qui sont les seuls trucs dans le cadre. Elle arrive et elle est pleine de désir pour lui alors que lui est pas chaud. Elle va le chauffer. Lui, il va aller dans la salle de bain et ça se termine par elle qui va sortir de la salle de bain. On va plus voir que ses deux jambes. Elle se met dans la même position que Jake LaMotta au début et c'est lui qui est plein de désir à la fin parce qu'elle l'a rechauffé, mais elle qui est plus trop chaude. Et j'aime beaucoup parce que pendant toute cette scène, ça vraiment, c'est comme si je te touche et que je te donne le désir. Hop.
Oh putain.
Et puis après, tu me retouches et puis c'est plus toi qui as le désir, mais c'est moi. Et non, je trouve, c'est le seul truc que j'ai
fait. Raph a triché puisqu'il est allé à l'université Paris 3 tout à l'heure écouter un cours sur le cinéma. Il vous recrache mot à mot ce qu'il a entendu.
Alors, je peux pas en dire plus parce que je me suis barré au bout de 30 minutes, mais du coup, je connais pas la fin du film.
Quoi. Non, mais surtout, faut parler quand même des glaçons dans le caleçon. C'est un truc qui est.
Mais moi, je dois dire que la première fois que j'ai vu le film, je devais avoir 13, 14 ans et en fait, je réalisais. Enfin. C'est con, mais à 14 ans,
pourquoi
vois...
Pourquoi il non. fait ça, je comprends pas.
Ouais. Non, mais genre, la première fois que tu vois, tu comprends pas trop. Alors plus tard, tu arrives à te dire, maintenant j'ai compris. Mais ce que je veux dire, c'est une image très forte. Il nous montre rien, et pourtant, ça pue le sexe, comme vous l'avez dit.
Mais t'as un autre moment où il y a de la glace, il met ses poings dans la glace après un combat.
Ouais, de ouf.
Qui est en fait assez lié. Enfin, il y a vraiment un truc entre le cool down du, enfin, d'essayer de se calmer et c'est assez, effectivement, ça le rend hyper sexuel sur la, mais, sur la première scène.
Mais de manière, il y a un autre truc où il s'embrasse à un moment avec Sugar Robin.
Ah, oh non,
non, non, non, je parle du mauvais film. C'était Raging Bull, mais ça s'écrivait pas B-U-L-L.
Là, là, ils servent bien de leur poing dans ce film, et donc qu'est-ce qu'ils s'en servent bien?
Il rencontre à nouveau Sugar Ray Robinson, qui cette fois-ci en revanche le bat. Mais c'est pas très grave pour Jake, parce que certes il l'a battu la dernière fois, mais en plus là il vient de montrer qu'il n'est pas allé au tapis, et qu'il a démontré au monde entier qu'il faisait partie des plus grands boxeurs du monde. Une vraie victoire qui permet un très bel enchaînement, avec un très beau montage de petites vidéos Super 8, en couleur cette fois-ci quand même.
Ah oui, c'est vrai, ça,
ouais,
dit donc.
C'est vrai que c'est en couleur. Ouais.
J'aime vraiment.
Et alors, du coup, en fait, on va voir un peu tous les moments de joie. De leur... il va pas y en avoir beaucoup des moments de joie dans sa vie. Mais là, en fait, on va tous les avoir en 3 minutes, en fait.
En 3 minutes, ouais, c'est ça.
J'avoue, c'est hyper bizarre. Vraiment, en fait, toute la partie bonheur de sa
vie.
Et
résumé en 2 minutes.
Exactement.
Alors, on va voir le mariage, on va voir la maison en banlieue, on va voir la signature du PEL,
mmh.
on va voir le scénic. Le premier caca du petit.
La vasectomie.
Exactement. La grossesse de Vicky. Toutes les victoires qu'il va accumuler. Donc là, vraiment, il est au high, high, high. Nous sommes en 1947 et Jake s'énerve contre son frère car celui-ci lui a déniché un combat contre un genou. Il est très frustré de n'être qu'un poids moyen. Être obligé de rencontrer que des minables. Pourquoi ? Parce que, en fait, il démonte tout le monde là depuis 2 ans. Il est devenu le plus grand boxeur du monde quasiment.
Oui, c'est ça. C'est à ce moment-là qu'on lui dit oui, effectivement, plus personne veut se battre contre lui. À part ce nouveau gars qui arrive un peu de nulle part, qui est un gosse.
Qui s'appelle Janeiro. Je l'appelle Rio de Janeiro pendant tout le truc. Et du coup, voilà, c'est en gros, il est dans la situation où il devrait avoir un shot pour aller essayer de choper le titre. Mais comme il est pas pote avec les mafieux, etc., c'est un peu difficile pour lui de l'obtenir parce qu'on lui fait pas de faveur avec ça. Et le seul qui va se battre avec lui, c'est un petit genou. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en parlant de ce petit genou, sa femme, elle va intervenir. Et qu'est-ce qu'elle va dire, sa femme?
Oui, sa femme. En fait, elle dit pas grand-chose, mais elle le décrit un peu et elle essaye de le convaincre. Elle se met plutôt de son côté. C'est vrai. Et elle lui dit, mais vas-y, tu peux le battre. En gros, il est tout neuf, il est tout jeune. Et elle dit, il est pas mal. Ou un truc comme ça, je sais plus exactement.
Ouais, elle dit,
he's good looking.
He's good looking. Ouais. En fait, elle dit 3 compliments, et c'est des compliments sur sa forme physique, et dont un qui est good looking, mais parce que c'est reconnu par tout le monde.
Ça lui plaît pas. Hein.
Ça lui plaît pas. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Il commence à montrer des gros défauts, là, Jake. Non seulement il a grossi, ça, tout le monde lui
fait
comprendre.
Des défauts, ta femme, elle dirait ça d'un autre.
Ma femme, elle le dit à longueur de temps, hein, que t'as des défauts.
Non, quoi?
Bah oui, elle dit toujours, ton patraf, il a plein de défauts.
Oh, il me casse les couilles, hein.
Non, mais
il vient parler dans le micro,
objectivement, il a grossi. Oui. Et surtout, il devient vachement jaloux, quoi. Ouais. Il supporte pas que sa femme aille dans la rue, qu'elle parle d'un autre mec, qu'elle adresse la parole aux autres. À tel point, ils ont une manière de se dire bonjour, tout ce qui est un peu chelou, c'est que, alors, Jack, il se serre la main, mais Vicky, il l'embrasse tous sur la bouche.
Ouais. Bah alors, c'est graduel, hein, parce que d'abord, il lui fait des bisous sur la bouche, et puis plus on avance, plus on est dans la vision de De Niro, plus il l'embrasse sur la bouche, il lui touche les seins, il lui fond les fesses,
ouais.
Et après, ils ont un gamin avec, enfin bon, c'est.
ça va très très loin.
Donc, comme ça, non, on est donc, t'arrêtes avec ma femme, hein, maintenant!
C'est vraiment les bons potes.
Et un soir, ils sortent en boîte au Copacabana, et ils rencontrent Salvi, sa meute, et leur patron, le fameux Tommy, et Jack.
Ce sont les mafieux, en fait.
Ouais, c'est ça. En fait, les mecs qui permettraient à Jack de gagner le titre. Jake n'aime pas du tout que Vicky soit allée les saluer et il chambre Jake sur son poids et se fout un peu de sa gueule sur son prochain combat. Il va rencontrer ce fameux genou qui risque de le battre puisqu'il n'a pas l'air en forme, Jake. Mais Jake, ça le rend furieux et du coup, qu'est-ce qu'il va faire au prochain combat?
Il le démonte. Mais en fait, c'est même pas. Non seulement il gagne, mais il gagne à plate couture. Et en fait, il fait surtout tout pour le défigurer. Il lui éclate le nez, je crois, vraiment 3 fois de suite. Tu vois son nez qui est mais à l'autre bout de son visage.
C'est vachement stylisé, la séquence. Il y a plein de ralentis. On voit l'arcade qui explose, le
sang
nez
qui
gicle sur les spectateurs à côté.
Ouais. Et
à un moment, on voit un filet de sang qui arrive sur la dame au premier rang. Enfin, c'est
horrible. Et là, du coup, t'as les 2 mafieux au premier rang qui font... Oh, bon, il va être beaucoup moins beau, le pauvre garçon. Hein.
C'est Bourville, d'ailleurs. Oh, c'est Bourville qui est là. Bah, il va beaucoup moins rentrer dire maintenant.
Marché, hein. Bon, il est tout cassé en dedans.
Ah, bah, mon visage.
Ah bah,
mon visage.
Mon auto. Enfin, bien Bourville. Mais voilà, il lui casse la gueule, quoi. Il le tue.
Et alors qu'il part s'entraîner quelques jours en dehors de la ville, Vicky se retrouve seule et en profite pour aller avec ses amis un soir au Copacabana, et notamment avec Salvi. Sauf que malheureusement, elle croise Joey au Copacabana, et ça le fait pas du tout marrer de voir que sa belle-sœur sort en fait.
Bah d'autant plus que il sait les tendances jalouses de son frère et il est en mode bon lui donne pas du grain à moudre parce que le mec est des, on sait tous qu'il est très clairement déraisonnable mais si toi tu sors alors qu'il est pas là
excuse-moi. Oui et ouais. Il avait alors, demandé
petit,
à son
petit
frère.
Rappel hein, on est dans les années 50 donc une femme qui sort seule
on est en 47
voilà donc oui. C'est pas accepté à cette époque. Mais aujourd'hui,
mais ils ont remis de la défaite de l'Allemagne.
Ouais, c'est... ils tirent tous la gueule. Hein. Ça se
va. Déjà qu'ils ont perdu. On était à ça.
Elle est marrante parce qu'en fait, c'est la Joe Pesci scene parce qu'elle va commencer avec lui hyper tendre qui vient voir sa belle-sœur en mode genre, on va partir parce que t'es vraiment en train de semer la merde comme t'es en train de dire. Essayer de calmer le jeu et en même temps, deux secondes après. Ça repart en cacahuète parce que qu'est-ce qu'il va faire à Salvi, Joey?
Alors ce qui est génial, c'est qu'il vient lui dire non mais pas de soucis, Salvi, y a pas de problème, etc. Il dit, on est potes
et là il le déglingue mais d'une force, il le ramène dans la rue et il lui éclate la tête entre la portière et la voiture
d'un taxi.
10 fois.
Et tu vois la meuf qui hurle dans le taxi en mode genre elle venait de commander son Uber tranquille. et là il y a Joe Pesci genre vraiment des affranchis qui arrivent.
Toi, si tu prends ton Uber et qu'il y a Joe Pesci qui arrive, qu'il soit énervé ou pas, moi, ça me met dans un drôle d'état.
Et en plus, la scène, elle est trop drôle parce qu'on le voit, genre vraiment, il commence à se battre. Enfin, même pas il se bat parce que juste, c'est Joe Pesci qui lui éclate la gueule depuis l'intérieur du bar jusqu'au taxi dehors. Et t'as des mecs qui sont en bar et ils bougent pas, ils regardent juste, les mecs passer. Donc ça doit être ça tous les soirs, à mon avis.
Alors, moi, je trouve qu'il y a, cette scène, elle est aussi hyper intéressante sur le personnage de Joey parce que juste avant que Jake s'en aille pendant 3 semaines, il dit à Joey, mec, il faudrait que tu surveilles ma femme pendant que je suis pas là. Et au début, Joey lui dit, bah non, mec, c'est bon, t'as pas besoin de la surveiller, t'es relou, t'es quand même hyper jaloux et tout. Et il a vraiment pas l'air content avec ça. Et pour autant, dès qu'il la voit sortir, le mec est prêt à tout pour défendre l'honneur de son frère. Et c'est...
Joey fait beaucoup de sacrifices parce qu'il va comprendre qu'il est obligé de s'excuser aussi auprès de Tommy et de Salvi, et que la seule manière pour son frère d'atteindre en fait les sommets sera forcément d'être corrompu, de se coucher. Donc Jake finit par accepter, même si son honneur en prend un coup, de se coucher au prochain match, face à un genou, et le combat qui suit est ridicule, puisque le genou en face de lui est nul à chier, et en fait, tout le monde sait que Jake est l'un des meilleurs boxeurs du monde, donc en fait, tout le public se rend compte que le match est truqué, il est comme d'une sanction, pendant 2 ans, il n'a plus le droit de se battre.
Ouais.
Ouais, c'est le down moins, quoi. Il est pas bien, le garçon. Hein.
Il doit ramener son carnet de correspondance signé de sa mère. Ce qui est hyper gênant parce que sa mère est morte.
Je ne tricherai plus dans mes matchs.
Et nous sommes en 1949, et après s'être éloigné quelques temps des rings pour faire profil bas, il revient pour un combat alors légendaire contre Marcel Cerdan.
Quand il me prend dans tes bras.
Pour le titre de champion du monde de poids moyen, et je pense que c'est peut-être la plus belle scène du film, avec un énorme plan séquence qui part des vestiaires où on voit en fait tout le monde qui Jake LaMotta qui passe dans les vestiaires.
I'm the boss.
Et en fait au début on le voit tout le monde on reconnaît tout le monde et puis d'un coup en fait il y a un mouvement de caméra et on fait qu'en fait toute la foule paraît anonyme sauf lui qu'on reconnaît au milieu de tout le monde. Il monte sur le ring et là il éclate Marcel Cerdan.
Ouais, et hyper rapidement en plus parce qu'au début il précise ce qu'ils font pas pour les autres combats, il précise qu'il y aura 15 rounds.
Ouais.
Et,
oui, d'habitude,
et
c'est
tu vois
maximum.
Que, ouais, c'est ça. Et tu vois que c'est au bout du 7e que le mec se couche. Et il se fait même pas, il abandonne, quoi. C'est
ouais,
vraiment.
Il arrête le combat.
C'est bon, j'ai perdu, quoi.
Mais il lui met une grosse rouste, hein. Et je crois qu'il y avait des interviews de Marcel Cerdan qui disait, j'ai pris mon tarot, quoi. Et il avait d'ailleurs assez peur de revenir parce que bon, petit passage sur notre français national. Marcel Cerdan meurt malheureusement dans le 2e match qui devait l'opposer.
Enfin, pas pendant le match. Il revient en allant aux États-Unis pour le deuxième match.
Non, il meurt dans le deuxième match et il était dans un avion dans la. C'était
vachement. Mais le mec avait vraiment peur. Il avait besoin d'un avion.
Tu m'attraperas pas, enculé. Et donc Marcel Cerdan meurt à ce moment-là et il avait une frousse pas possible de se rebattre contre Jake LaMotta, quoi.
Et nous sommes désormais en 1950, la télé ne marche pas, le ventre est ventripotent. Jake interroge alors son frère Joey, puisqu'il a appris qu'il s'est passé quelque chose il y a 3 ans en Copacabana, et il lui demande pourquoi il ne lui a pas raconté cette histoire. Jake est furieux, il commence à se méfier de tout le monde, il est ultra jaloux, et il a une question très précise à poser à son frère.
Tu vas laisser cette fille bousiller ta vie, regarde. Elle a fait du sacré boulot avec toi, t'as vu comme t'es ravagé, regarde ce qu'elle a fait de toi.
T'as baisé ma femme.
Quoi ?
T'as baisé ma femme.
Et c'est toi qui oses me poser cette question, tu oses demander ça à moi, à ton frère. Et tu demandes ça. Mais faut que t'en aies une foutue paire pour me demander ça.
Dis-le-moi.
Eh ben, je réponds rien. Je réponds pas à ça, c'est trop bête.
You fuck my wife. You fuck my wife. C'est mon répondeur, d'habitude, c'est ça. Donc c'est pour ça. J'ai l'habitude de le faire.
T'as eu des offres d'emploi en ce moment, Gaspard ou
c'est, pas trop, là.
Ils m'ont rappelé, mais ils ont vite abandonné.
Mais j'ai vu qu'en fait, l'adresse mail que je leur ai donnée, c'est .fr, alors que mon adresse, c'est .com.
Ah, c'est plus ça. Youfuckmywife.com.
C'est ça. Non, mais une question quand même essentielle qu'on se pose un jour tous dans notre vie.
You fuck my wife.
Réponse à laquelle Joey s'en va, en fait. Il préfère ne pas répondre.
Voilà. Et c'est là qu'on a quand même le moment.
Il est hyper vexé, en fait.
Voilà. C'est pour ça que j'aimerais vous poser une question. Vous en avez pensé quoi de cette
On a eu une petite goutte de sueur à l'espace d'un instant. Non, mais c'est vraiment le moment où la jalousie est à son paroxysme, puisqu'il en vient.
Oh, paroxysme, boum. Ouais. On le coche. On peut le cocher celui-là.
Allez, hop, c'est fait. Ça. Hein, c'est dithyrambique comme critique.
Oh, pam. Si culture, ils nous prennent pas.
Et c'est vraiment le moment où sa jalousie est au max. C'est plus simple pour nos auditeurs, peut-être qu'ils comprendront mieux comme ça.
Là, il a crave les boules, tu vois.
Et il fait crari, mais en vrai, il a le seum. Et puisqu'il arrive à soupçonner son propre frère. Et ça va donc l'entraîner dans une spirale infernale où, en plus de ce down-down niveau émotion, on voit qu'il va être en down-down niveau carrière, puisqu'il va se rebattre contre Sugar Ray Robinson et il va s'en prendre plein la gueule. Donc, il sait qu'il peut pas gagner contre Sugar Ray Robinson, parce que bon, il y a une histoire de points. Mais en plus, il veut même pas essayer de gagner. C'est-à-dire qu'il s'arrête de se battre, il se tient aux cornes.
Non, c'est de la provoque pure.
C'est de la provoque. Et il lèche Sugar Ray Robinson, lui en mettre plein la gueule, en le provoquant, en lui disant, vas-y, tape-moi dessus. Et il ne tombe pas.
Et le symbole est peut-être très lourd, mais à un moment, on voit De Niro qui se tient contre les cordes. Et c'est clairement une crucifixion. Lui, avec ses bras et tout, c'est Jake qui va se faire péter la gueule. Il pense...
Surtout.
Mais en plus, c'est vraiment le mec qui pense donner un sens à sa vie, tu sais.
Donc c'est moins, hein, parce qu'il se fait vraiment éclater la gueule. Il a quand même le petit côté tu m'as pas mis par terre, et il le dit à Sugar Ray Robinson.
You fuck my wife!
C'est vraiment genre à la fin du combat, alors qu'il avait toute l'occasion de se battre légalement. Il fait, excuse-moi, you fuck my wife! Et commence à se battre avec lui, mais c'est très bien. Et là, on a un cut en fait sur le 1956, donc c'est plusieurs années après. On voit que sa carrière après, bah, s'est un petit peu arrêtée.
Sa carrière a baissé, en revanche, son poids a énormément augmenté.
Oui.
On peut le dire.
Oui.
Il a pas une bonne alimentation, parce que toi, tu peux peut-être nous donner des conseils d'alimentation.
Non, mais justement, ça me fait un peu penser à ça. Moi, je me souviens, il y avait eu, on avait fait il y avait quelques combats entre les dauphins au parc.
Ils se battaient entre eux.
Ouais, ça arrive, tu vois, c'est pas.
Ouais.
Et effectivement, je me souviens d'un des dauphins qui est là et qui dit, bah, you fuck my wife, et qui dit, bah, vas-y, viens. Enfin, en dauphin, mais.
En vrai, c'est affreux que ça rigole pas. C'est affreux que ça arrive comme ça, les trucs avec les animaux.
Non, mais ça, enfin, c'est un truc assez naturel, tu vois.
Oui, la nature. Les mecs se tombent dessus.
Ils sont entre eux. Je veux dire, c'est assez normal qu'on les aide aussi.
C'est les Cribs et les Bloods, tu vois.
Oui,
Cribs, mais ils sont à fond là-dedans.
Non, en vrai, par contre, j'aimerais qu'on arrête de faire des blagues dessus.
Oui, ils vont derrière. Ouais. Et donc, Jake en a fini avec la boxe et il a ouvert un club où il monte sur scène chaque soir pour se pavaner.
C'est vraiment le truc le
plus
gênant.
C'est hyper gênant, quoi. Il est là, il raconte des vannes qui sont même pas des vannes, tu sais, il est juste
mais en plus,
à faire des intros. Et ce soir, on accueille Billy June. Tout le monde applaudit, voilà.
Michael Jackson.
C'est ça. Tu sais, il fait la blague avec son micro sur une meuf bonne.
Oui.
Je vais entendre le bruit d'une femme jolie sur mon micro. Et ça dure des plombs.
C'est affreux.
Mais c'est génial parce que c'est hyper bien malaisant, quoi. Enfin, c'est hyper bien fait.
Pour autant, le mec maîtrise pas mal son audience à ce moment-là.
Il y a encore quelques vannes.
Tu sens qu'il est aimé, son nom veut dire quelque chose. Et d'ailleurs, son club s'appelle La Mota.
On dit que La Mota, oui.
Donc, et il y a du monde.
Il s'appelle Box. J'adore la boxe. Son club s'appelle Fuck My Wife. Ouais. Et c'est la question qu'on te pose
à chaque fois.
Alors voilà ma canoté. Je m'en bats les couilles. Fuck My Wife.
Non, mais j'ai mis des baskets. Bon, c'est bon, ça passe quand même.
Faut y aller, mon gars.
Mais d'ailleurs, ça leur a posé un problème parce qu'ils auraient peut-être dû demander une carte d'identité.
Mais ce champion de la relance,
putain, hein. Oui, c'est vrai.
Quelle transition magnifique. Hein.
Tu m'étonnes que les dauphins sautent si haut avec toi.
Oui.
Là, en effet, il a un problème parce qu'il accueille des mineurs. Ouais. Et en fait, quel est son moyen de contrôler les cartes des mineurs?
Magnifique. Qui
est quand même... En fait, on a compris que c'était une pulsion chez lui puisque Vicky, lorsqu'il l'avait rentré, elle avait 15 ans. Et en fait, son moyen de contre-identité, c'est de rouler des pelles.
En fait, tu dis, oh, elle fait plus vieille.
C'est vraiment les valseuses qui sentent le slip et, oula, c'est à 15 ans, ça.
Ah oui, mais là, on est en 56, si tu veux.
Ça passe pas.
On a eu le temps de se remettre de la défaite, mais lui, vite passer à autre chose.
D'ailleurs, moi j'ai vu la version Editor's Cut parce qu'au début, il fait ça avec deux meufs, mais après il fait ça avec une série de garçons. On a 18 ans.
Eh ben, je vais vérifier ça.
Ouais, laissez tomber en fait.
Moi, c'est bon, on va y aller. C'est bon. Mais du coup, voilà, il a un petit problème parce que il va donc. Alors, ça, c'est un vrai passage de la vie de Jake LaMotta. C'est-à-dire qu'il
complètement
va...
fantasmé, il monte dans un vaisseau, il part dans l'espace, et puis là.
It is fun home. Et il met une grosse droite à l'extraterrestre. Le fuck my wife!
Titi bâtard là!
Et du coup, en gros, c'est qu'il va avoir des petites interstices sexuelles avec des mineurs. Alors, quand il a vu sa Vicky la première fois, elle avait 15 ans, mais celle avec qui cette fois-ci il fait des petites bêtises, elle en a 14. Et ça, c'est quand même très chaud, quoi.
Et la police, ouais, du coup, débarque pour lui tomber dessus.
Et là, il est en vraie déchéance parce qu'il dort, il est en mode gros plein de soupe avec le pantalon un peu légèrement défait. J'ai bien aimé ce détail, parce qu'il rentre plus dans son froc. Et la police arrive et il est tout suant, il s'assoit et il est en mode qu'est-ce que j'ai encore fait comme connerie.
Et pour pouvoir se payer un avocat, parce qu'il a quasiment plus d'argent, il va jusqu'à démonter sa ceinture de champion du monde, qui du coup ne vaut plus rien puisqu'elle est démontée. C'est très très con comme réflexe. Et en fait, le problème, c'est qu'il est rapidement mis en prison et seul dans sa cabine.
C'est un peu un truc d'enculé quand même, parce que, enfin, je veux dire, moi, je compare encore avec ce que je fais, mais c'est souvent les jeunes, ouais. 14, 15 ans. Moi, je sais qu'on a des bêtes au parc, 14, 15 ans, c'est un truc.
15 ans, ça a 15 ans,
non? Ouais.
Putain, c'est grand, en fait, je sais pas.
Non, ça vit assez vieux. Alors, on compare, c'est un peu.
C'est comme les chiens.
C'est un peu comme les chiens, voilà. Ouais. C'est l'équivalent de 14 ans en vie de dauphin, tu vois.
Ouais.
Nous, je sais que c'est les meilleurs.
Ils ont des boutons d'acné.
Non, mais
c'est, oui, non, mais c'est les meilleurs. Mais bon.
Tu vois, ouais.
Nous, on était venus voir un numéro l'année dernière et en fait, tu leur donnes à manger en leur donnant un bisou sur la bouche. Donc, c'est vrai que c'est un peu gênant maintenant que tu le dis, mais après, bon.
Oui, bah non, il faut
le remettre dans le contexte.
Là, c'est des combats, donc c'est pas non plus.
Mais attends, pour les combats, non, ils se battent pas non plus tout le temps.
Tu m'emmèneras pas là, je t'emmènerai! Pousse-toi, je vais te foutre! Culé! Dans le chat! Dans le chat! Allez, tu m'entends? Tiens, 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 tiens,
tiens,
tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens,
tiens,
tiens, tiens, tiens, tiens, tiens,
c'est des amis,
c'est comme ça qu'ils me traitent.
Ouais, enfin,
j'imagine, c'est un peu plus compliqué que ça quand même.
Bah, je suis désolé, on fait un peu un écart sur le film, mais
non, mais on les aide un peu.
Vous les quoi? Vous les aidez comment ça? Fin...
En fait, ça a commencé ça... quand ils se battent. Tu vois, c'est naturel, ils se battent
oui,
entre eux.
Oui, c'est ça. Ouais.
En fait, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien regarder ça.
C'est vrai, oui, c'est un peu comme
mais donc fallait le prouver. Voilà, c'est assez proche du film.
Mais attends, ça a rien à voir avec la boxe. C'est dégueulasse, c'est des animaux qui se battent.
Ça dérange pas d'ailleurs, regarder des matchs de boxe, tu peux regarder, enfin c'est...
Alors après, nous ce qu'on fait, souvent, c'est effectivement, comme ça ramène du monde, on le provoque un peu aussi.
Quoi,
c'est...
Quoi
bah, attends, il faut... Oui, mais moi je comprends, après il y a de la nature et puis faut... Non mais c'est pour le spectacle.
C'est pas normal, enfin tu provoques pas des combats.
C'est pas normal, Raph, c'est...
Tu vas pas les houspiller pour qu'ils commencent à se foutre sur la gueule.
Non mais c'est pas ça, mais tu vois, on les laisse, par exemple, on les enferme.
Ils finissent par se péter sur la gueule, tu comprends?
Mais ça je veux bien comprendre parce que c'est la nature, mais attends, excuse-moi, il y a deux choses, là t'es en train de me dire que vous êtes... Concrètement, hein, vous organisez un peu des coups.
Non, mais c'est ce qu'on fait. Non. Enfin, c'est pas exactement ça. C'est ce qu'on fait, qu'on les enferme.
On peut pas s'empêcher.
On les enferme pendant une semaine, en général. Tu vois, dans des petits trucs assez clos, comme ça, ils sont un peu.
Vous les enfermez dans des petits trucs clos? Mais c'est dégueulasse.
Mais non, bro, mais c'est putain, ils sont faits. Il vient de t'expliquer que naturellement, ils finissaient par se tomber sur la gueule.
Mais oui, mais naturellement, je veux bien qu'il y ait des écarts, mais c'est pas un truc que tu provoques.
Mais on recrée, mais
on parle pas d'un putain de lien. On parle d'un dauphin, si tu veux. Encore heureux que Thomas prenne soin d'eux, tu vois.
Justement, faut en prendre soin, faut pas leur. Mais attends, vous provoquez les combats.
Il y a 20 secondes, ça te dérangeait pas de voir deux mecs qui se tapaient sur la gueule.
Mais parce que on est des humains, on a le libre arbitre. Là, c'est des pauvres animaux. Enfin, ils ont rien demandé.
Les mecs se tapent. Ça te dérange pas du tout de voir des gars qui se tapent dessus?
Non.
Et en revanche, des dauphins, ça te.
Mais attends, moi, ça me dérange pas, mais du moment que vous organisez les combats, enfin réponds-moi, c'est vrai ou pas là?
Il vient de te dire qu'il organisait des combats. On peut retourner au film ou pas?
On retourne pas au film.
Oui, voilà, on organise des combats. Je sais pas,
Raph, vraiment tu casses les couilles là. Est-ce qu'on peut juste retourner au podcast?
Du tout au podcast. L'autre, il est en train de me dire qu'il organise des combats avec des espèces en danger.
Il t'a invité au parc Astérix, on a regardé les dauphins, ça t'a fait marrer. Putain, mais est-ce qu'on peut reparler d'un vrai film maintenant?
Mais on passe pas du tout, mais c'est mort. Moi, je participe pas du tout à cette. Mais c'est n'importe quoi.
Putain, mais
jamais de ma vie j'ai vu un truc pareil. C'est dégueulasse. Tu fais pas des trucs comme ça.
Non mais il est fini quand c'est comme ça. Non mais arrête, Raph, tu nous casses les couilles. Mais je sais pas ce que t'as.
Je veux dire.
Non mais retourne voir la suite de Sauver Willy. T'as vu dans quel état ça te met? Mais je. Mais casse-toi, putain.
Ton
mais...
podcast de merde, je veux plus en entendre parler.
Oh, oui, c'est ça, ouais.
Pour te faire plaisir.
Ouais.
Et j'ai amené un pote.
Très bien.
J'apprends que cet enculé fait des combats.
Très bien. Tu ne dois pas nous manquer, Raph. Tu ne nous manqueras pas du tout.
Bah, c'est dommage, il restait que deux scènes. Peut-être qu'on.
Ouais, non, mais.
On continue.
Oui, oui, on continue.
Je suis vraiment désolé, c'est pas.
Non, mais il est chiant, pardon, il a des trucs comme ça, mais là, il a. On était en. Du coup.
Tu veux que je le fasse?
Non. On était en 58, et du coup, Pat Jack, il est désormais seul après que sa femme l'ait quitté. Il vit désormais avec une striptease. Enfin, non, enfin, elle le prend pas. Mais il alimente un bar un peu nul. Et puis un soir, il croise son frère. Il veut pas lui pardonner.
C'est pas. C'est.
Il est tout seul.
Je suis là, tu sais.
Et sinon, ça n'a plus le film. Ça n'a plus.
Je pense qu'on va arrêter là.
Non, mais c'est... Ouais, je trouve que c'est le plus beau film du... Mais en plus, je disais que je finissais toujours en pleurs en parlant de ce film. Et du coup, bah, le prochain épisode, bah... Enfin, s'il y en a un, du coup, bah... Je sais pas... On avait prévu de parler d'Astérix. Et...
Tu le feras avec quelqu'un d'autre. Ou il reviendra. Il n'y a pas de... Il reviendra un jour.
Il peut partir maintenant. Je m'en fous. Merci de nous avoir écoutés et mettez des pouces sur iTunes et mettez des pouces partout. Et à la semaine prochaine.
Au revoir.
Just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows.